Avec Audiolib, écoutez le prix Goncourt.
Pour le commerce, la guerre présente beaucoup d'avantages, même après.
Au revoir là-haut, de Pierre Lemaître, en librairie et sur audiolib.fr.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Depuis quelques jours, au musée Jacques Marandré à Paris, se tient l'exposition de Watteau à Fragonard, les fêtes galantes. Franck Ferrand en profite pour nous parler de Watteau cet après-midi sur Europe 1. Bonjour Franck.
Oui, bonjour Céline, bonjour à tous. Aujourd'hui Watteau, peut-être un jour Fragonard, qui sait ? Antoine Watteau est un maître, Serge Lega en est un autre, et le second nous parlera du premier cet après-midi.
Et puis tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question qu'a posée Aurélie sur la page Facebook de l'émission.
Oui, Aurélie voudrait connaître l'origine de l'expression « boire un canon ». Eh bien, on va essayer de lui répondre. Pour le moment, place à la grâce, au raffinement, à l'émotion, à la fraîcheur.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Jolie pastorale, tendre, sous des frondaisons idylliques, des ruines agrestes, le clapotis imaginaire d'une fontaine moussue, un coin de parc aux ombrages propices avec une statue de Vénus et des personnages tout frais, tout roses, un peu vaporeux, qui devisent amoureusement en domino de soie nacrée, comme un parfum de comédie italienne. Vous avez la Harlequin, Sylvia, Trivelin, la fée de Marivaux. Trois bouts d'accessoires, un petit masque, un caraco bordé de fourrure, des effets à la fois très riches et terriblement périssables. Ce galant badinage, inconsistant, léger, un peu précieux parfois qu'on devine sous le pinceau du maître, presque toujours superficiel, disons-le, ces charmants instantanés, pleins d'une fraîcheur naturelle et vive, restent attachés au nom de Watteau. Songez à l'embarquement pour Cythère du Louvre et à l'effet cinétique de ces trois jeunes couples qui se lèvent dans un seul mouvement tournant pour s'en aller reprendre la barque de Cupidon. Triomphe du rocaille, du mouvement, de l'enveloppement dynamique. Chez Watteau, l'instant, la pulsion, l'énergie et la touche et la fougue gestuelle prévaudront toujours sur la perfection formelle. Le dernier chef-d'œuvre du maître est l'enseigne qu'il a peinte en 1720 pour le marchand de tableaux Gersin, qui tenait boutique à Paris pour Notre-Dame. Cette toile offre une limpide allégorie de... Ce tableau, devrais-je dire d'ailleurs plus exactement, offre une limpide allégorie de la Régence, considérée du point de vue des sensibilités. On y voit, vous savez, à gauche, des grouillots qui font disparaître dans de grandes caisses des portraits figés, des compositions roides du temps de Louis XIV, tandis que sur la droite, une clientèle élégante se pâme déjà devant des scènes légères, plus détendues, promesses d'un nouveau règne tout en grâce. C'est ainsi, Antoine Watteau, dans l'inconscient collectif, reste le grand symbole esthétique du XVIIIe siècle, alors qu'en vérité, il est mort en 1721, 6 ans seulement après Louis XIV. Malgré une carrière très brève d'une quinzaine d'années, il va connaître un immense succès de son vivant. Il va laisser derrière lui une œuvre considérable, plus de 200 tableaux, des milliers de dessins. Il restera pour le XIXe siècle et pour tous ceux qui suivront. On peut déjà l'imaginer, il restera le peintre de la joie et aussi celui d'une forme de tristesse retenue. Il est en tout cas, et Serge Lega nous dira dans quelques instants ce qu'il faut comprendre par ce terme, il est le maître absolu des fêtes galantes. Jean-Antoine Watteau est né à Valenciennes le 10 octobre 1684, c'est-à-dire seulement 5 ans après que la ville est devenue française. Le merveilleux René Huyghe, qui a été, parce que je ne connaissais pas Serge Lega à l'époque, évidemment, qui a été mon maître via les livres dans l'histoire de l'art, dit, je le cite, « Il est français, mais de date récente. En 1684, où il naquit, il y avait 5 ans seulement que Valenciennes était devenue nôtre par le traité de Nimègue. Français, il l'est pourtant de vieille souche par les droits de la culture, car le Hainaut était terre de langue française, de tradition française. Watteau est bien de notre pays. Ce n'est pas un flamand comme on l'a qualifié à l'époque, c'est bien un wallon. » Il est le deuxième des quatre fils de Jean-Philippe Watteau et de Michel Lardenois. Son père était couvreur, vous savez, maître couvreur et charpentier, donc un homme d'une certaine aisance, il faut bien le dire, même si on a par la suite tenté parfois de prétendre le contraire. Il est aussi assez querelleur, il boit pas mal, il peut se montrer violent. Voici ce que nous dit René Huyghe. Certainement, l'enfance de Watteau fut pénible. Elle explique peut-être son précoce repli intérieur. Certaines théories font dériver parfois la tuberculose de chocs profonds de la sensibilité juvénile. Fût-ce l'origine première de cette phtisie précoce qui condamna Watteau à une disparition prématurée. Et le maître précise, malheureusement, l'histoire attache une certaine importance aux dates et il se trouve que Watteau n'est pas un homme du XVIIIe siècle, qu'il n'est pas le contemporain de Madame de Pompadour, car il est mort l'année où elle naissait, qu'il est encore moins le contemporain, bien entendu, de Fragonard, qui a attendu 12 années encore pour apparaître. En un mot, Watteau n'a rien à voir avec Louis XV et peu avec la Régence, puisque né en 1684 et mort en 1721, il passe les 4/5 de sa vie sous Louis XIV. Si l'on cherche à quel règne il correspond, ajoute René Huyghe, il est manifeste qu'ayant survécu, quoique beaucoup plus jeune, de 5 ans seulement au grand roi, il appartient chronologiquement encore à son orbe. On ne peut pousser le paradoxe jusqu'à dire qu'il incarne le même esprit que Boileau ou que Lebrun. Mais ces dates obligent à réviser quelque peu l'idée simpliste qu'on se fait parfois de lui, non seulement simpliste, cher René Huyghe, mais aussi carrément fausse. Les parents de Watteau, son entourage, disons, vont tôt encourager sa vocation artistique. Il est envoyé en apprentissage chez différents peintres. Alors d'abord à Valenciennes, bien sûr, chez lui, et puis bien sûr aussi à Paris. Vers l'âge de 10 ans, il est placé chez Jacques-Albert Guérin, on va en parler dans un instant, un peintre de Valenciennes dont le musée et les églises ont conservé quelques ouvrages, évidemment. Seulement, Guérin meurt en juin 1702, et Watteau, à ce moment-là, part pour Paris. Il est temps pour lui de dire comme un autre héros, un peu plus tardif nettement, disons-le, à nous deux, Paris.
Jean-Philippe Rameau sur Europe 1, un extrait de l'acte de ballet Anacréon. Nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie de Watteau.
Huyghe raconte tellement bien l'arrivée de Watteau à Paris que je n'ai pas de raison de le paraphraser. À Paris, écrit-il, il n'avait pas trouvé davantage une ambiance favorisant l'adhésion au XVIIe siècle versaillais, au XVIIe siècle que Louis XIV avait formulé pour l'avenir. C'est au contraire dans le milieu flamand qu'il s'établit, c'est-à-dire dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Par un privilège d'exterritorialité, Saint-Germain-des-Prés n'était pas sous la coupe des corporations des peintres parisiens. L'ancienne limite de Paris suivait à peu près la rue de Seine. Saint-Germain-des-Prés, des prés, ça voulait dire autrefois des champs, hein, des prairies. Saint-Germain se trouvait donc en dehors de la ville. De ce fait, les peintres étrangers qui résidaient à l'ombre de l'abbaye avaient le privilège de vendre leurs tableaux sans passer par les contraintes très strictes des corporations. Watteau dut fréquenter alors ce milieu nordique, y faire la connaissance de Vleugels, de Speux, de l'Anversois. Il habita dans cette maison de la chasse qu'il était mouvant de retrouver au carrefour de la Croix-Rouge, là où la rue de Sèvres reçoit l'affluent de la vieille petite rue du Dragon. La vétuste demeure, branlante et tassée, forme l'éperon de cette conjonction. À côté, dans la rue du Vieux-Colombier, il hantait les auberges où se réunissaient des peintres septentrionaux. Il s'échappait ainsi, échappait ainsi à l'emprise de la tradition française telle que l'Académie l'avait formulée, surtout sous l'égide de Lebrun, le dictateur des arts, reflet de l'autorité du roi. Il se mêlait au contraire au mouvement de réaction qui se prononçait contre l'influence italienne au profit d'un retour à la peinture du Nord, à la peinture flamande, à Rubens, dont il avait admiré enfant les tableaux à Valenciennes. Je sais que ça, c'est une des marottes de Serge Legas, évidemment, avec lui dans un instant. Nous allons revenir sur cet aspect et sur cette lutte entre deux grandes écoles, finalement, de peintres. À Paris, Watteau se met à fréquenter des marchands d'estampes. Il a l'intention évidemment de s'améliorer, de parfaire sa culture. Il rencontre Claude Gilliot, qui est graveur, décorateur de théâtre, très inspiré par la comédie italienne, et qu'il l'invite à venir travailler chez lui. Et c'est probablement chez Gilliot que son goût pour la commedia dell'arte, pour les personnages de théâtre et les fêtes galantes, trouve ses racines. C'est là, finalement, que Watteau nous rapproche, nous ramène très près de Marivaux. Et c'est peut-être la concordance de ces deux univers qui a peu à peu, et notamment au XIXe siècle, eu tendance à faire plutôt passer Watteau pour un homme du XVIIIe siècle, comme Marivaux lui-même l'avait été. Mais n'oublions pas que Watteau a ouvert la voie, qu'il a été bien précurseur et qu'il était là bien avant Marivaux, naturellement. René Huyghe de nouveau. Quelques années à peine auparavant, 1697, on avait expulsé les comédiens italiens parce qu'ils étaient trop frondeurs et jusqu'à tourner en dérision la reine clandestine Madame de Maintenon, dont le mariage secret avec le roi eut lieu précisément l'année de la naissance de Watteau. Ils étaient partis, mais leur sillage où se complaisaient Gilliot et Watteau était peu propice à l'orthodoxie du règne. En tout cas, Watteau va prendre bientôt son indépendance. Il va entrer dans un atelier qui va jouer un rôle important. Il entre chez Claude Audran, Claude III Audran, peintre du roi, conservateur du palais du Luxembourg. C'est là qu'il admire profondément cette fameuse galerie des Médicis, la galerie de Marie de Médicis. Vous savez où sont toutes ces grandes toiles de Rubens qui aujourd'hui encore font les belles heures du Louvre. Il va en faire toutes sortes de copies. Watteau est logé dans les dépendances du palais, devant le jardin qui devient une source d'inspiration. Et voici ce que nous dit le comte de Caylus. Le comte de Caylus était, vous savez, un grand esthète, un homme de lettres, un graveur, ami de Watteau, un de ses principaux biographes. Il nous dit « Il dessinait sans cesse les arbres de ce beau jardin ». Vous ne vous trompez pas, on parle bien du jardin du Luxembourg, en tout cas ce qu'il était à l'époque. « Il dessinait les arbres de ce beau jardin » qui, brut et moins soigné que ceux des autres maisons royales, lui fournissait des points de vue infinis, tantôt par la différence des aspects et des endroits, tantôt par les différences que le soleil du soir et du matin apportent dans les mêmes places et sur les mêmes terrains. On assiste là bel et bien au premier balbutiement de l'impressionnisme. Alors, en 1702, Watteau tente le prix de Rome, qui avait été créé par Colbert, vous savez, en 1663. Ce concours est organisé chaque année par l'Académie royale de peinture et de sculpture. Il est ouvert à ses élèves, il est patronné par les académiciens. Et Watteau va n'y obtenir que le second prix, ce qui lui ôte le privilège d'aller là-bas parfaire sur place ses connaissances. Il n'est que deuxième prix, donc il n'est pas prix de Rome, il ne va pas aller pouvoir s'installer dans la ville éternelle. Il est un petit peu dépité, il faut imaginer qu'Antoine a même, disons-le, été assez heurté par cette situation. Il va d'ailleurs retourner un petit moment à Valenciennes, pas très longtemps. 1709, c'est une année difficile, vous rappelez, on a raconté déjà à ce micro le grand hiver, les températures épouvantables, les gens qui meurent par grappes de centaines et de milliers, de famine, le vin qui va jusqu'à geler sur la table du roi à Versailles, on descend à des températures de moins 20, moins 25 degrés, puis c'est l'année de Malplaquet, c'est la pire année de cette guerre de succession d'Espagne qui aura marqué de son empreinte fatale, de son empreinte noire, les dernières années du règne de Louis XIV. Je reprends le cours du récit de René Huyghe. Au cours de cette terrible bataille, donc Malplaquet, qu'on a appelée une boucherie, il n'y eut pas moins d'une vingtaine de milliers de morts du côté des ennemis et d'une dizaine de milliers du côté des Français, chiffre énorme pour les guerres du début du XVIIIe siècle. Watteau, sur les routes du Nord où il retournait, découvrait le revers atroce ou simplement misérable des mêlées héroïques. Et quand il débutera par des thèmes militaires, il représentera non pas, comme van der Meulen, une armée dans sa splendeur, avec des souverains ou des généraux caracolants, mais des bandes sans prestige, traînant sur les routes avec des campements de fortune, où la marmite chauffe suspendue à une branche arrachée, une troupe un peu dépenaillée, où l'on porte le fusil sous le bras et que suit son cortège de femmes et d'enfants, tout un aspect peu glorieux qui évoque plutôt la débandade que l'épopée. Tout cela ne le prédisposait pas à aimer Louis XIV, son esprit et son siècle. Si, à en croire la psychanalyse moderne, le souverain représente le chef, le père, alors Watteau trouva là une bonne raison de ne plus mépriser le grand roi dont il fit dans l'enseigne de Gersin, mettre sans façon l'effigie en caisse. Et oui, vous savez, on voit ce grand portrait de Louis XIV qui disparaît dans la caisse sur l'enseigne de Gersin. On peut dire que les années sombres de la très lente fin de règne de Louis XIV auront définitivement marqué Watteau. 3 ans plus tard, en 1712, il postule de nouveau. Cette fois, son œuvre est jugée d'une qualité telle qu'il est élu membre de plein droit de l'Académie. Voici ce que nous raconte Laurent Josse Leclerc, qui est un de ses contemporains. Il écrira un article biographique sur Watteau dans le grand dictionnaire historique de Moreri, vous savez, de Louis Moreri. Il fit, dans les moments qu'il n'était pas occupé à ses ouvrages, un corps de garde très estimé, et ce fut dans ce temps-là qu'on proposa à l'Académie royale de choisir entre les jeunes gens les plus capables pour envoyer en Italie. On les avertit d'apporter leurs ouvrages pour qu'on pût juger de leur capacité. Watteau présenta comme les autres des dessins et des tableaux à messieurs de l'Académie, qui en furent si surpris qu'on lui fit entendre que son mérite le distinguant de ses compétiteurs, au lieu de l'envoyer à Rome, on le recevrait dans cette illustre compagnie s'il voulait faire les pas nécessaires pour y être agréé. Grâce qu'on n'a jamais accordé qu'à lui, il les fit, ses pas. Et donc, il fut reçu.
Et nous rappelons à nos chers auditeurs qu'ils peuvent réagir tout au long de l'émission, nous envoyer leurs messages, leurs questions par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH, ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant, sur Europe 1, la suite de votre récit Franck Ferrand sur le peintre Antoine Watteau. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie d'Antoine Watteau.
Alors nous l'avons laissé en 1712, notre Watteau. 3 ans plus tard, le grand roi meurt en 1715, bien entendu. 2 ans encore plus tard, en 1717, il va présenter son morceau de réception à l'Académie. Il s'agit du fameux pèlerinage à l'île de Cythère, hein, cette toile si mystérieuse qui est aujourd'hui au Louvre et dont nous allons parler avec Serge dans un instant, parce qu'il y a tellement à dire de cette toile extraordinaire. Watteau, on peut le dire, est le premier à s'intéresser véritablement aux sentiments amoureux. Que font les personnages sur ces toiles? Ils ont l'air d'être complètement plongés dans des conversations tendres, dans de jolis songes. Les mimiques sont omniprésentes, de même que l'élégance, la grâce des gestes. Hein. C'est vrai qu'il y a évidemment une forme de frivolité dans ces scènes, dans cette fête galante dont nous allons parler, mais il y a aussi une forme de mélancolie prudente et réservée chez Watteau, qu'on retrouvera probablement dans certaines des toiles du XVIIIe siècle. Je pense qu'un Lancret, par exemple, Nicolas Lancret, Jean-Baptiste Pater, etc., vont essayer de reproduire cette atmosphère, mais ils ne le feront plus jamais avec la même finesse, la même extrême délicatesse de touche. Watteau n'est pas seulement considéré comme un parfait imitateur de la nature galante et comique du temps, estime Christian Michel. Il a su réconcilier l'art et la nature, et il s'agit, convient Kellus, d'un artiste cultivé qui a fortement réfléchi à la peinture. Ce fut dans ses retraites que je reconnus pour mon profit combien Watteau pensait profondément sur la peinture et combien son exécution restait inférieure à ses idées, dira Kellus. Je crois que ça c'est très vrai, c'est-à-dire que bien sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup d'habileté chez Watteau, mais il y a sans doute un retrait sur la toile par rapport à ce qu'a dû être la conception infiniment subtile du peintre lui-même. L'expression pour Watteau, nous dit Huyg, est dans le ciel, dans la lumière, dans le chatoiement du satin qui s'harmonise avec les frissons d'un étang, elle est dans l'ombre qui tombe des arbres et dans le rouge du soleil qui se couche. Elle est partout, elle est diffuse, elle est dans l'âme de Watteau. Elle passe de son âme dans le paysage, de ce paysage dans les personnages qui l'habitent, et elle passe enfin dans notre âme, à nous, spectateurs. C'est après tout ce qu'on pouvait lui demander, que de nous élever un peu l'âme et de nous réjouir de toute cette tendresse et de toute cette galanterie. Alors vers 1719-1720, Watteau va partir pour Londres avec toujours l'espoir de soigner cette espèce de mal terrible qui lui ronge la poitrine. Il va probablement, pour autant qu'on sache, consulter le docteur Richard Mead, qui est un des médecins les plus réputés de l'époque et qui admire par ailleurs l'œuvre du peintre. Dans la capitale britannique, il rencontre de nombreux artistes français qui s'inspirent de son œuvre pour réaliser des gravures qui vont ensuite se vendre. On en trouve énormément, de ces gravures de Watteau, encore aujourd'hui sur le marché de l'art en Angleterre. L'influence de Watteau sur l'art anglais, on la trouve alors de façon spectaculaire, mais ça m'a toujours frappé, c'est très étonnant. Chez Gainsborough, bien entendu, regardez le traitement des taffetas, des soies, de ces reflets textiles, notamment chez ce frémissement textile, si j'ose dire, chez Gainsborough, on le retrouve, il est une citation quasiment de Watteau. Évidemment, quand vous êtes malade des poumons, c'est peut-être pas à Londres qu'il faut aller vous soigner, parce que l'air londonien ne vaut pas grand-chose. Watteau rentre en France, de retour à Paris, son talent est désormais reconnu de tous. Il fréquente un groupe d'amateurs qui loue chaque jour son génie. Je vous ai parlé du comte de Caylus, bien sûr, il y a aussi là Antoine de la Roque ou encore Jean de Julienne, qui d'ailleurs fera graver par Boucher un recueil de ses plus beaux dessins. Il y a des marchands comme Sirou, Mariette, Gersin, dont nous avons bien sûr parlé avec cette fameuse enseigne. Il y a des financiers, grands collectionneurs, je pense à Pierre Crozat, bien entendu, sans doute l'homme qui a eu le goût le plus raffiné de son temps, et qui va loger Watteau un temps chez lui. Watteau pourra comme ça admirer l'incroyable collection Crozat, et d'ailleurs il fera pas mal de copies, de dessins de tout ce qu'il voit. Néanmoins, son mal s'aggrave, son ami l'abbé Arranger l'installe à Nogent-sur-Marne pour qu'il bénéficie d'un peu d'air pur, mais c'est trop tard, puisque Watteau va mourir, il va s'éteindre, si j'ose employer un terme qui lui convient davantage, il va s'éteindre quelque temps seulement plus tard. Bonjour Serge Lega.
Bonjour Franck.
J'ai quitté Watteau à sa mort. Il faudra que nous parlions bien sûr de son incroyable postérité et de tous ceux qui, notamment au XIXe siècle, ont assuré sa célébrité mondiale. Mais avec vous, bien entendu, ce que j'aimerais surtout faire, c'est entrer dans le détail d'une œuvre qui s'apparente largement à ce genre des fêtes galantes. Qu'est-ce que c'est qu'une fête galante ? Serge Lega va nous le dire dans un instant.
Tout nous porte à frémir, au désir, au plaisir. À pousser le verrou qui nous sépare, qui nous sépare.
Julien Clerc sur Europe 1 avec un extrait de son titre Le Verrou. Vous nous parlez cet après-midi. Oui, dites-moi.
Le Verrou, c'est le titre d'un des plus célèbres tableaux de Fragonard.
De Fragonard. Et vous nous parlez cet après-midi d'un autre grand peintre, Antoine Watteau, avec votre invité Serge Lega, professeur à l'Institut d'études supérieures des arts, historien d'art, conférencier des musées nationaux.
Alors Serge Lega, d'abord il faut que je fasse mon mea culpa. J'ai parlé tout à l'heure de Jacques-Albert Guérin. Vous me dites c'est Gérin.
Gérin.
Il ne faut pas lui ajouter
petit
ce
détail.
U inutile. Le musée Jacques Marandré propose donc une exposition de Watteau à Fragonard autour de ce thème de la fête galante. Vous l'avez visité, vous. C'est la différence entre nous. Moi, je n'ai pas eu le temps. Pourtant, j'habite à côté.
Très jolie exposition. Exposition qui se terminera le 21 juillet. Il y a donc beaucoup, beaucoup de temps pour profiter de cette exposition. Exposition qui présente la fête galante avec, évidemment, comme point d'orgue, Watteau et ses émules, les dessins qui sont vraiment un des temps forts de l'exposition. Et puis alors, l'évolution qui est une évolution assez large puisque l'on aborde aussi bien la carrière de François Boucher qu'à la fin celle de Fragonard, où là on n'est plus vraiment dans la fête galante
avec
au sens strict.
Un très beau Fragonard,
un sublime, puisque la Banque de France a exceptionnellement prêté la fête à Saint-Cloud, qui est un tableau absolument immense et qui clôture l'exposition en beauté. C'est une merveille.
Alors c'est assez étonnant de voir à quel point Watteau a pu être considéré comme un peintre du XVIIIe siècle, alors qu'effectivement il est né au XVIIe et qu'il meurt pas très longtemps après Louis XIV finalement. Alors c'est vrai que lorsqu'il meurt, on est déjà dans la Régence, Louis XIV
1714 est mort en 1715, Watteau en 1721. Il y a donc les grandes années de sa production sont celles de la Régence. Mais c'est bien encore un homme des grâces de l'extrême fin louis-XIVienne qu'un contemporain de Boucher ou de Fragonard.
Watteau est justement cet artiste qui montre cette transition parfaite entre la fin du règne de Louis XIV et la période de la Régence, qu'il illustre également. Mais comme vous l'avez très bien précisé, Franck, tout à l'heure, effectivement, Watteau est aussi un héritier, et il est justement l'héritier de ce changement du goût qui a lieu en France à la fin du règne de Louis XIV. Et on ne peut pas comprendre Watteau sans comprendre que la France est une France qui change radicalement d'esprit à la fin du règne de Louis XIV. C'est ce que l'on appellera, d'un terme général, la querelle des anciens et des modernes, que l'on appelle en peinture les dessinateurs, les poussinistes, contre les coloristes, les rubénistes. Et Watteau est totalement l'héritier de ce triomphe de la couleur en France. On ne peut pas comprendre Watteau sans ce changement d'esprit.
On ne peut pas dire qu'il soit autodidacte, puisqu'il a été très tôt dans les meilleurs ateliers, mais en même temps, on a un peu l'impression qu'il se forme sur le tas, quelque part.
C'est une formation, effectivement, qui n'est pas très facile à situer, puisque le fameux Jacques-Albert Gérin, dont on a parlé à Valenciennes, est un peintre sur lequel on sait peu de choses. D'ailleurs, soyons francs, on n'est même pas totalement certain que Watteau ait été formé par Gérin, qu'il ait connu ce peintre, oui, puisqu'on voit quelques toiles dans les églises de Valenciennes. Et puis ensuite, on le trouve surtout, vous en avez parlé Franck, chez Claude Gillot, qui lui donne le goût du théâtre italien. Mais là se passe un problème. Claude Gillot a un caractère assez affirmé, Watteau n'a pas bon caractère, les deux hommes se brouillent, et se brouillent définitivement d'ailleurs. Watteau quittera avec perte et fracas l'atelier de Gillot. D'ailleurs, il conseillera aussi par la suite à Lancré de quitter l'atelier de Gillot. Donc les choses se sont mal passées. Et ensuite, on le retrouve chez Claude Troyes-Audran, dont vous avez parlé. Mais Claude Troyes-Audran, c'est avant tout un ordemaniste.
Alors, avant de parler d'Audran, troisième du nom, voyons Gillot, justement. C'est quand même lui qui l'introduit dans cet univers de la Commedia dell'arte, de ces comédiens italiens, de cette espèce de légèreté.
Alors, c'est un goût que les Français avaient véritablement acquis. On adorait le théâtre à l'italienne, et c'est une petite histoire assez amusante. D'ailleurs, les comédiens français avaient pris ombrage du triomphe des comédiens italiens, et c'est sous Louis XIV, en 1697, que les comédiens italiens sont chassés de France, ne peuvent plus jouer. À ce moment-là, certains d'entre eux qui restent en France vont transformer le spectacle en spectacle de foire. Succès à nouveau, colère à nouveau des comédiens français. Et à ce moment-là, on leur interdit de parler sur scène, d'avoir plusieurs actes, ils ne peuvent que chanter. Et en fait, ce changement, bien, c'est tout simplement la naissance de l'opéra comique. Voilà, c'est comme ça, sûr, que l'opéra comique est né, grâce à ce changement que les comédiens italiens ont fait vivre.
Il y a une petite magie très particulière. On imagine ce jeune Watteau en train de peindre dans la boutique du pont Notre-Dame avant d'aller chez Gillot. Il est chez Métayer, c'est
alors,
ça
de... D'abord, il rencontre un fameux Métayer sur lequel on ne sait pas grand-chose. Oui. Watteau n'a pas pu rentrer puisque c'est un peintre qui ne peut pas prendre d'élèves. Et alors, comme vous le dites très bien, on le retrouve ensuite chez un marchand dont on n'a absolument pas le nom. Ce qui est amusant, c'est que sa boutique est Pont Notre-Dame, là où sera également celle de Gersin. Et Watteau va commencer, mais alors d'une façon extrêmement modeste, puisque son début de carrière, c'est de copier à la chaîne soit des tableaux nordiques. On sait qu'il copie un portrait de vieille femme inspiré par un élève de Rembrandt, et un Saint-Nicolas qu'il fait absolument à la chaîne.
Et les peintres du Nord, il les a donc côtoyés. Hein. Je l'ai montré tout à l'heure, partageant de bonnes bières avec eux dans les cabarets de son quartier.
Et c'est là où on se rend compte qu'il est
de la rue du Dragon.
Exactement. Et puis la double influence, le souvenir de Valenciennes, qui est quand même encore très très imprégné par cet esprit flamand qui était celui que l'on pouvait voir à l'époque. Gérin, d'ailleurs, si tant est qu'il ait été le premier professeur de Watteau, est un peintre sous influence flamande. Et puis à Paris, il se retrouve dans cette confrérie des peintres de Saint-Germain-des-Prés, qui est évidemment une confrérie nordique. Alors, chose intéressante, il côtoie des Flamands, mais il est aussi très intéressé par les Hollandais. Et c'est aussi l'une des choses qui est intéressante chez Watteau, c'est son regard aussi sur la peinture réaliste hollandaise.
Et grâce à Claude Troyes-Audran, donc, il va pouvoir accéder à ces chefs-d'œuvre que sont les tableaux de la galerie de Marie de Médicis. Hein,
ça sera pour lui un bonheur absolu. D'ailleurs, il fera des dessins d'après la galerie de Marie de Médicis, dessins qu'il utilisera dans certains tableaux. On a des citations de détails que l'on retrouve. Par exemple, dans l'enseigne de Gersin, il y a un des chiens qui est au premier plan du couronnement de Marie de Médicis, peint par Rubens et qui est repris par Watteau.
C'est amusant d'aller chercher ces petites citations.
C'est des citations, et c'est vraiment pour lui une référence référence absolue. Rubens, c'est le maître de référence au niveau de sa carrière.
Oui, et alors, on ne peut pas dire cela sans évoquer, bien entendu, la querelle entre poussinistes et rubénistes.
Oui, alors c'est une querelle qui est assez simple à synthétiser, puisqu'au fond, la France est un pays qui, depuis des temps immémoriaux, est un pays du dessin, c'est un pays qui est dans la grande tradition qui est celle des écoles en référence avec le monde italien, qui est celui des écoles du dessin, Florence ou Rome. Et à la fin du règne de Louis XIV, on commence à trouver que cette peinture n'est pas assez sensuelle, pas assez sensitive, et il y a une mise en valeur de tout ce qui relève des écoles du Nord, entre autres Rubens, d'où le clan des rubénistes. Et Watteau va se situer totalement dans ce triomphe nouveau des coloristes, des rubénistes sur les dessinateurs. On en parlait tout à l'heure, c'est ce changement qui s'opère.
C'est un peu formes et forces, puisque
exactement.
Je citais tout à l'heure René Wiggin, hein, et lui est plutôt du côté de la force.
Ah, complètement.
Fait, hein.
Et puis, c'est l'idée de la différence entre le dessin qui représente l'esprit et la couleur qui représente l'œil. Et Watteau est vraiment un peintre qui va s'adresser dans sa peinture avant tout à l'œil.
À l'œil, oui, voilà. Et c'est peut-être une des explications, une des clés pour comprendre l'incroyable succès qu'il va connaître de son vivant. Alors, il va manquer ce premier Grand Prix de Rome. Ça, c'est embêtant pour lui.
Oui,
il le prend mal.
Ça n'a rien d'infamant. Être second pour un Prix de Rome, c'est même plutôt bien. Simplement, c'est comme être quatrième aux Jeux Olympiques, car il y a de plus dur.
Ça, on ne peut pas partir pour Rome.
Donc, il échoue en 1708. C'est son grand échec. Et effectivement, il ne retentera pas le Prix de Rome et il n'aura donc pas ce séjour italien. Watteau, c'est une chose à mentionner, n'a pas fait le voyage en Italie, ce qui est évidemment plutôt une exception pour cette période.
Oui, donc il s'est plutôt inspiré des Rubens du Luxembourg que de tous les grands maîtres italiens qu'il aurait pu découvrir mais n'a pas découvert. Alors, l'Académie, je l'ai dit, va lui faire cet honneur invraisemblable de l'accueillir dans ses rangs au lieu de lui donner un prix lorsqu'il postule pour la deuxième fois. Est-ce qu'on peut imaginer que s'il avait vécu plus longtemps, parce que là on est encore du vivant de Louis XIV, le roi va mourir, s'il avait vécu plus longtemps, il aurait pu devenir un grand peintre officiel d'une certaine manière.
Personnellement, je ne le pense pas. Je pense que Watteau est par excellence un peintre qui est en dehors, par exemple, du monde versaillais. Watteau, c'est un Parisien, sa clientèle est à Paris, c'est pas du tout un artiste de cour. À ce niveau-là, c'est l'antithèse absolue de ce que sera après lui François Boucher. François Boucher, c'est un peintre de cour, c'est le peintre de Louis XV, c'est le peintre Madame de Pompadour. Watteau, c'est un esprit indépendant. Et travailler à la commande, ça ne relève pas de son principe. L'essentiel des tableaux de Watteau, hormis le pèlerinage à Cythère, ce sont des tableaux qui sont des tableaux qu'il choisit lui-même, dont il a véritablement le choix du sujet, ce qui est aussi exceptionnel.
Il a commencé dans le genre hyper classique de la peinture d'histoire, quand même.
Oui,
hein.
Et d'ailleurs, alors ça, c'est une chose enfin que l'on met en valeur. On a toujours dit qu'avec le pèlerinage à Cythère, Watteau était reçu peintre de fêtes galantes, ce qui est faux. Il est reçu peintre d'histoire. Mais c'est avec ce tableau, on va en parler, que l'on créera le mot de fêtes galantes. Mais Watteau est reçu peintre d'histoire, ce qui est le plus grand genre en France. C'est vraiment la catégorie suprême, ce qu'on appelle le grand genre, c'est la peinture d'histoire.
Ce tableau, il présente encore aujourd'hui de grands mystères. On peut aller, alors vraiment c'est un conseil que je peux donner même, c'est d'aller au Louvre rien que pour le voir. Vous passerez deux très bonnes heures et puis vous rentrerez tranquillement chez vous retournerez au Louvre une autre fois pour voir autre chose, mais ça vaut, comme on dit, à lui seul, ça vaut le voyage. Et dans un instant, avec Serge Lega, nous aurons le décryptage du dit tableau.
Et nous sommes au cœur de l'histoire du célèbre peintre Watteau cet après-midi avec vous, Franck Ferrand, et votre invité Serge Lega, professeur à l'Institut d'études supérieures des arts, historien d'art, conférencier des musées nationaux. Et nous avons également des messages de nos auditeurs, Franck.
Oui, alors notamment Pauline, via Facebook, nous signale que dans une exposition, elle a pu voir une robe ornée d'un pli dit Watteau, et elle a pensé que cet ornement était lié au peintre Watteau. Alors Alain lui répond, oui, ces plis sont appelés plis Watteau en hommage à l'artiste qui aimait représenter les robes sur ses œuvres. Qu'est-ce que c'est que ces plis Watteau, Serge
Lega? Le pli Watteau, c'est très élégant. C'est ce pli qui se trouve dans le dos des robes des femmes et qui part du haut du cou et qui tombe et qui donne une silhouette extrêmement gracile au personnage. Et effectivement, dans la mode française, c'est ce que l'on a continué à appeler le pli Watteau.
Est-ce qu'il y a des robes avec des plis Watteau sur l'embarquement?
Absolument, oui, tout à fait.
On dit d'ailleurs l'embarquement, c'est pèlerinage à l'île de Cythère, le titre.
Alors ça, c'est un grand débat. Ouais. C'est une histoire qui peut être très longue, là aussi, essayons de la synthétiser. On a toujours dit de ce tableau tableau qu'il était le pèlerinage à Cythère, en considérant qu'en fait, les couples du premier plan partent pour Cythère. Alors, ce serait l'embarquement pour Cythère.
Il faut, pour nos plus jeunes auditeurs, préciser en deux mots ce que c'est que Cythère. C'est l'île des plaisirs, des amours.
L'île de Cythère est l'île de Vénus, puisque la mythologie voudrait que Vénus soit née à côté de l'île de Cythère, puisqu'elle est née de l'écume de l'eau, et elle est née à côté de l'île de Cythère. Donc c'est l'île de l'amour, c'est l'île du plaisir, et c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle dans le tableau du Louvre, à droite du tableau, il y a un buste de Vénus. Et alors, l'idée est la suivante.
Est-ce que ce sont des gens qui s'embarquent pour aller à Cythère, ou est-ce qu'ils sont déjà à Cythère et qu'ils se rembarquent?
Alors,
et qu'ils
rembarquent pour... On a toujours pensé que c'était un embarquement, qu'ils allaient partir. Et c'est en 1961 que le grand spécialiste anglais Michael Levy a lancé l'idée que ces personnages ont une allure un peu nostalgique, mélancolique. Oui. Vous parliez de la mélancolie.
Ils se lèvent, voilà, de regret déjà.
Et donc un regret. Donc en fait, ils ne partiraient pas pour Cythère, mais ils seraient en train de quitter Cythère.
C'est le rembarquement.
Le rembarquement ou le débarquement. Alors, pèlerinage, c'est très bien, parce qu'au fond, les deux camps sont d'accord.
Bon, il faut expliquer en deux mots ce qu'est cette toile fourmillante, presque, attention au terme qu'on emploie, j'allais dire presque impressionniste, mais en tout cas, il y a comme ça quelque chose de très... de l'inspiration pure.
C'est un tableau magique, et c'est vraiment le
grand,
tableau.
Assez grand tableau.
C'est un tableau de grand format. Les morceaux de réception pour l'Académie sont des formats imposés. Watteau, qui déteste les grands formats,
oui,
là, n'a pas le choix.
Précise, oui.
Il est obligé de peindre un format que l'Académie réclame. Et ce tableau, justement, c'est le point de départ de ce que l'on a appelé une fête galante, même s'il est reçu peintre d'histoire. La fête galante, c'est la représentation de ces couples très élégants qui sont en train de se faire la cour dans un cadre de nature totalement idéalisé.
Ah oui. Alors, ces cadres de nature, c'est peut-être... c'est très subjectif, hein, ce que je vais dire là maintenant. Mais c'est peut-être ce que notre pays a pu fournir de plus extrêmement raffiné à l'histoire des arts en général. C'est-à-dire qu'il y a là une certaine lumière, une certaine harmonie générale, ces coins de parc comme ça, c'est ce que je disais pour ouvrir cette émission. Hein. Il y a cette ambiance si spéciale, totalement très difficile, comme vous pouvez le voir, très difficile à décrire, mais qui en même temps fait totalement rêver. Devant toutes ces toiles des fêtes galantes, on est immédiatement parti, rêve.
C'est le monde du rêve, c'est la magie de Watteau, c'est aussi toute la subtilité. On a pu dire de Watteau qu'il était le maître du demi-mot, et je trouve que c'est le plus joli terme qui lui correspond. Tout est suggéré, rien n'est imposé. Ça sera d'ailleurs la différence avec les peintres qui reprendront le thème de la fête galante après Watteau, qui parfois vont rajouter des connotations érotiques plus présentes, des symboles à caractère sexuel plus évidents. Watteau, tout cela est évidemment suggéré, mais jamais rien n'est dit. Et c'est toujours d'une poésie totale. Et la fête galante, c'est vraiment Watteau qui en est le créateur.
Cette poésie, elle n'appartient pas à Watteau, elle va être reprise par d'autres. Mais vous le dites, hein, il est bien à l'origine. Dans l'exposition là, du musée Jacques Marandré, on voit, j'imagine, ce qu'est devenu ce genre par la suite.
C'est tout à fait la déclinaison qui a lieu, puisque Watteau en est le créateur. Ensuite, on a ces deux peintres essentiels, Jean-Baptiste Pater, qui est le seul élève connu de Watteau. Watteau n'avait pas d'atelier. Pater est passé peut-être très peu de temps d'ailleurs chez Watteau. Nicolas Lancré, qui est sûrement le meilleur suiveur de Watteau. Et puis là, l'exposition prend un parti pris, c'est celui de décliner toute l'idée de la fête galante jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. C'est peut-être le petit bémol que je ferai, puisqu'en fait, le terme de fête galante correspond vraiment à Watteau et ses émules, et en tant que tel, le sujet pur de fête galante est totalement démodé dès les années 1745. Là, l'exposition va jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, jusqu'aux années 1780, pour montrer le fameux Fragonard de la Banque de France. Alors c'est vrai que c'est une suite assez directe, mais on n'est plus totalement dans le même esprit.
Oui, bien sûr. Alors cet imaginaire, justement, tient peut-être, cette extraordinaire grâce poétique de ces tableaux, tient peut-être au caractère imaginaire des scènes représentées. Généralement, ce ne sont pas de vrais paysages, ce sont des paysages qui sortent de l'esprit de l'artiste.
C'est rarissime que l'on ait un paysage que l'on ait pu reconnaître. On a un tableau où on pense reconnaître le parc de Montmorency. On a quelques détails où on imagine que cela pourrait être un endroit, mais les 9/10 du temps, ce sont de pures fictions, ce sont de pures idées. D'ailleurs, quand on parlait de Fragonard, la fête à Saint-Cloud, c'est un titre totalement tardif également qui ne représente pas du tout le parc de Saint-Cloud.
La toile est très peu empâtée. Hein. Il m'est arrivé de regarder ce tableau de très près au Louvre. Je vous avoue que j'ai beaucoup rêvé, moi, devant ce tableau. il y a des endroits où on a l'impression que la toile est à peine effleurée par
c'est extraordinaire.
Par la brosse.
Il faut d'ailleurs le regarder très près. Par endroits, on voit apparaître le dessin préparatoire.
Voilà,
la peinture
exactement.
Est tellement légère qu'on voit par-dessous
le dessin en dessous.
Le travail. Et on voit surtout une chose merveilleuse chez Watteau, ce sont les repentirs. Et dans le Pèlerinage à Cythère, qui est pourtant un tableau académique, il y a des repentirs évidents. Par exemple, il y a un couple au centre du tableau. Si on regarde de très très près, à travers la robe de la jeune femme, on voit deux petits chérubins qui apparaissent et qui étaient la première pensée du peintre qu'il a modifié par la suite.
Vous parlez du dessin préparatoire, on a tout simplement des milliers de dessins de Watteau. C'était un homme très prolifique.
Alors, c'est un très grand dessinateur, c'est un peintre plus problématique. Alors ça, c'est une chose aussi intéressante. Le dessin, c'est quelque chose qui va vite, ça correspond au tempérament de Watteau. Vous parliez du comte de Caylus. Le comte de Caylus nous dit que Watteau n'était jamais content de sa peinture et qu'il fallait toujours le rassurer et que Watteau aurait eu tendance à détruire beaucoup de ses œuvres si ses amis ne l'avaient pas conseillé. Et c'est un petit peu le problème de Watteau en peinture. Certains tableaux, comme le Pèlerinage à Cythère du Louvre, sont admirablement bien peints. D'autres tableaux sont des tableaux peints avec des huiles de mauvaise qualité et les tableaux vieillissent très mal.
Il y a même un tableau dont je me rappelle avoir été frappé étant adolescent, parce qu'on m'avait dit que c'est le tableau qui avait tué Watteau. C'est le fameux Gilles qui est peint en grande partie au blanc de Céruse, dont on sait que c'est un poison violent. En
absolument,
fait,
c'est ce qu'on a beaucoup dit. Alors le Gilles, que l'on appelle maintenant Pierrot, puisque Gilles c'est la version française du théâtre italien, on est revenu à Pierrot maintenant. Alors ça c'est un tableau absolument merveilleux. Moi je trouve que c'est un des tableaux les plus étonnants, sûrement le plus surprenant de sa carrière, puisque c'est une
totalement
peinture immense.
Différent de tout le reste.
Totalement.
Et très moderne.
Et l'explication, on pense l'avoir enfin trouvée. Pourquoi Watteau a fait un grand format, lui qui détestait cela? Parce qu'on pense que ce tableau qui est maintenant présenté au Louvre avec un beau cadre doré, était tout simplement à l'origine une enseigne. Donc c'était l'enseigne d'un Pierrot qui avait quitté le théâtre italien, qui avait dans le quartier du Marais ouvert un cabaret à la mode, et Watteau, par amitié pour Belloni, cet acteur italien, avait fait une enseigne qui était l'enseigne pour attirer les clients.
Mais entre parenthèses, voilà une question que je me suis souvent posée, mais je vais la poser au micro pour que tous nos auditeurs en profitent. J'espère que vous allez pouvoir nous répondre. Mais ces enseignes étaient comme ça exposées à l'air libre? Ça paraît incroyable
et ça explique les problèmes de conservation. Alors l'enseigne de Gersin, elle, était préservée par un auvent. C'était en fait une enseigne qui était en forme de tympan, de lunettes, et elle était au-dessus de la porte. Il y avait un auvent qui la protégeait. Mais effectivement, ce sont des œuvres qui pouvaient subir toutes les intempéries et tous les problèmes de conservation qu'on peut imaginer.
Alors on parle de cette enseigne de Gersin et de cette enseigne de Pierrot, finalement.
Vraisemblablement.
Et puis bien sûr du Pèlerinage à Cythère qui reste l'œuvre célèbre, le grand morceau de réception. Mais il y a tout le reste, des œuvres dont on pourrait presque dire qu'elles sont sinon anonymes, mais en tout cas perdues dans une multitude de très jolies inspirations et de pochades.
Et ce qui est très étonnant, c'est que Watteau, sans aucun doute, qui est le grand maître de la fête galante et du théâtre italien, nous l'avons dit, mais c'est aussi un peintre qui a dû faire d'autres choses dans sa vie. Les sujets de scènes de guerre dont vous avez parlé, qui sont des sujets assez réalistes, montrant les malheurs de l'époque, des bivouacs, des réunions de soldats assez nostalgiques également. Watteau est également un décorateur, même si son œuvre de décorateur a totalement disparu. On est sûr que sous l'influence de Claude III Audran, il a participé à de nombreux décors. Le seul que l'on puisse mentionner à Paris, c'est l'hôtel de Nointel, l'actuelle maison des polytechniciens à Paris. Donc il a d'autres aspects à son talent que la fête galante et les scènes italiennes.
Alors certains peintres ont disparu, si j'ose dire, après leur mort et puis ont été redécouverts tardivement. On cite toujours évidemment l'exemple du grand hollandais, Vermeer.
Ou Georges de Latour, voilà deux
Latour,
exemples
par
de
exemple.
Peintres qu'on a.
Mais alors c'est pas du tout le cas de Watteau, qui lui a tout de suite connu une postérité phénoménale, au XVIIIe siècle c'est une évidence, mais même au siècle suivant. Théophile Gautier évoque l'atmosphère qui se dégage de l'œuvre de Watteau dans un poème de 1838, Gérard de Nerval intitule le quatrième chapitre de sa nouvelle Sylvie un voyage à Cythère, allusion évidemment directe à Watteau. En 1857, c'est au tour de Baudelaire de lui consacrer un quatrain dans Les Phares. Verlaine en parlera et combien et comment. Et puis les frères Goncourt, bien sûr, qui eux seront les spécialistes de cette peinture du XVIIIe siècle et qui, en 1881, s'intéressent directement à Watteau, le grand poète du siècle passé. Ainsi l'appelle-t-il. Et puis alors, on verra même au XXe siècle un grand nombre d'auteurs. Je pense à Paul Claudel, par exemple, qui voit dans le seul personnage de l'indifférent de Watteau. Très, très jolie toile,
petit tableau.
Magnifique merveille. Il l'appelle le messager de Nacre, un avant-courrier de l'aurore, dont il compare la démarche à celle du poète ambigu, inventeur de sa propre prosodie, dont on ne sait s'il vole ou s'il marche, son pied ou cette aile quand il le veut déployer, à aucun élément étranger, que ce soit la terre ou l'air ou le feu ou cette eau pour y nager que l'on appelle l'éther. C'était vraiment un maître pour tout le monde.
Si c'est une référence totale, et quand on parle de la descendance de Watteau, on peut dire qu'il y a eu une petite période de purgatoire, c'est évidemment l'époque néoclassique. D'ailleurs, il y a un épisode qui est assez révélateur, puisque le pèlerinage à Cythère du Louvre a été un jour abîmé par un excité qui détestait cette peinture rocaille, et le tableau a reçu un coup de poing qui a déchiré la toile à ce moment-là. C'est vraiment la grande période où on remet en cause Watteau, Boucher, Fragonard. Mais en dehors de cette période où on critique cette peinture, Watteau restera toujours l'esprit du 18e, même si vous l'avez bien précisé, c'est un peintre du 17e qui continue sous la Régence, mais il est vraiment l'ambassadeur d'un 18e siècle en marche. C'est l'annonce du règne de Louis XV, même s'il ne l'a évidemment pas connu.
Ce qu'il fait advenir, c'est cette fameuse fête galante avec laquelle, peu à peu, le 18e finira par se confondre. Donc il y a vraiment, chez Watteau, l'esprit en germe de ce qui s'éploiera plus tard dans le cours du règne de Louis XV.
Oui, un moment de perfection, un moment de luxe, un moment où l'art français atteint une sorte de paroxysme de beauté. On pourrait dire que c'est l'acmé d'un certain art français. Il y avait eu une très belle exposition il y a fort longtemps au Musée des Arts Décoratifs qui disait le règne de Louis XV au moment de perfection. Bien, Watteau annonce beaucoup ça, en fait. Toute cette mise en place d'un art français qui devient la référence européenne.
J'aimerais laisser le dernier mot, si vous êtes d'accord, Serge.
Bien sûr.
René Wig, elle est partout, nous dit-il, cette expression, elle est diffuse, elle est dans l'âme de Watteau, elle passe de son âme dans le paysage, de ce paysage dans les personnages qui l'habitent, et elle passe enfin dans notre âme à nous, spectateurs. Merci beaucoup Serge, on n'a plus qu'une envie, c'est de courir au musée Jacques-Marandré pour visiter cette exposition de Watteau à Fragonard, les fêtes galantes. Je pourrais citer également de Christian Michel à la librairie de Rose, le célèbre Watteau, c'est paru il y a quelques années. C'est un ouvrage dont nous nous sommes inspirés pour ce récit. Merci Serge, à très bientôt pour découvrir un autre pan de l'art grâce à vous.
Merci.
Dans un instant sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question d'Aurélie sur l'origine de l'expression « boire un canon ».
Retour aux origines.
Et vous répondez Franck Ferrand à la question d'Aurélie qui nous l'a envoyée via la page Facebook de l'émission. Elle aimerait connaître l'origine de l'expression « boire un canon ».
Mais dites donc Aurélie, il y a quelque temps en visitant le grand temple, vous savez, de la Grande Loge de France, on avait fait une émission sur la franc-maçonnerie et les personnes qui nous avaient reçues nous avaient dit que c'était une expression d'origine maçonnique et que lorsqu'on buvait pendant les agapes maçonniques, vous savez, on tapait le fond du verre et que ça faisait finalement que tous les fonds tapant en même temps, faisait un bruit de canon. Bon, mais il semblerait qu'il y ait aussi une autre expression, une autre origine qui, elle, nous ramène au temps de Watteau, puisque vous savez qu'autrefois, avant la Révolution, il y avait pas le système métrique, etc. Il y avait toutes sortes de mesures, et notamment pour mesurer les liquides, on avait des unités comme la roquille, le poisson, la chopine, la pinte, la cade, la velte. Enfin, on a un peu oublié tout ça. J'ai envie de dire heureusement, parce qu'on a déjà parfois du mal avec les décilitres et les décalitres, mais alors là, vous imaginez ce que ça devait être. Et au XVIe siècle, le canon, c'était une de ces unités de mesure qui était utilisée donc dans le domaine du vin essentiellement, et qui valait 1/16 de pinte. Alors quand vous savez que la pinte c'était grosso modo à peu près le litre actuel, ça voulait dire à peu près 6 centilitres. Donc boire un canon, c'était peut-être tout simplement boire l'équivalent de 6 centilitres de vin. C'est pas beaucoup en même temps, 6 centilitres de vin. Un simple verre de vin contient bien plus de 6 centilitres. Alors boire un canon, c'était vraiment pas très... Il faut reconnaître que c'était pas très généreux. À mon avis, l'explication maçonnique est plus convaincante. Mais ça n'est évidemment que mon avis. Vous allez voir jusqu'où nous poussons sur cette antenne d'Europe 1 le souci de l'harmonisation dans un instant.